En flux libre, l'émission qui distille du libre dans tes tuyaux. Toutes les deux semaines, l'actualité du libre et de Linux. Présenté par Ghislain Larose, Alain Devarieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième podcast d'En Flux Libre, troisième déjà. Merci à toutes et à tous d'être toujours au rendez-vous pour suivre l'actualité du libre et du logiciel du libre et de Linux, pardon. Bonjour Alain.
Salut.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va bien. Bon matin, hein,
10h30.
Ouais,
tout à fait, motivé là.
10h30, oui, on est motivé. Ouais. 10h30 quand on enregistre, donc... Allez, on y va, on est bon. Petite nouveauté, hein. Déjà vous pouvez d'ores et déjà entendre que nous avons deux micros puisque nous parlons tout clair, on a enfin réussi à corriger nos petits problèmes de, de micro.
Ça c'est cool ça.
Oui, ça c'est plutôt cool, alors qu'on aurait pu même les corriger depuis la semaine dernière, mais voilà, ça va être une meilleure qualité sonore pour vous en tout cas. Et puis 2-3 modifications au niveau du générique. Et puis vous entendez le tapis sonore derrière. En plus on peut parler sur le tapis sonore, donc c'est encore plus cool. Voilà. Et bien écoutez, on va tout de suite débuter le sommaire. En flux libre, épisode 3. Au sommaire, des news Pafolition avec Commodore OS, Mozilla et sa suite, Flash, Silverlight, Skype et le petit carré bleu avec un F dedans. Je pense que tout le monde aura deviné qui c'est. LibreOffice et le siècle du logiciel libre. Dans le focus, nous vous parlerons de DuckDuckGo, moteur de recherche
Duck
alternatif.
DuckDuck.
Ouais, DuckDuck. Ouais.
Comme
ouais,
canard.
Moi, j'aime bien le DuckDuck.
pas de dégeek aujourd'hui, mais on a remplacé la dégeek par une bonne dose de test avec Fedora 16 et Linux Mint 12 en release candidate.
Que du lourd.
Oui, du très très lourd même. Le site du jour sera consacré à nos amis de Framasoft et à tous ses outils sous-jacents, hein, dont on utilise un d'ailleurs pour l'émission, un Framapad. Le point DistroWatch, hein, comme toutes les semaines, hein, ne changera pas, avec pas mal de petites distributions. Et enfin, un rendez-vous du libre consacré au compte-rendu de la conférence sur l'Open Data qui s'est déroulée la semaine dernière à Rennes.
Oui, c'était le 7 novembre.
Voilà, la cantine numérique, hein, c'est ça.
Tout à fait.
Tout à fait, voilà.
En flux libre, les news.
Avec un retour du Commodore, dis donc.
Le Commodore.
Le Commodore, ce fameux ordinateur des années 80, hein, il me semble. Hein.
Ouais, c'est pas tout récent. Hein.
C'est pas tout récent, c'est pas tout jeune. Et Commodore OS, enfin Commodore revient avec une nouvelle configuration. Et attention, c'est du très 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 lourd. Avec donc un nouveau OS et puis surtout un nouveau matériel. Puisque une société en Floride a fait renaître le Commodore 64, ça n'a rien à voir avec le modèle de 1980. Puisque,
à part au niveau du style
ouais.
Design.
Le design est complètement...
Ils ont gardé le truc des années 80.
Ah ouais, ça c'est assez... Et par contre, le matériel est juste énorme, puisqu'on a un Intel Core i7, un quadricœur cadencé à 2,2 GHz. Avec possibilité de le monter à 3,3, c'est juste énorme. 8 gigas de RAM DDR3, voilà. Et un chipset graphique Intel HD avec 2 teraoctets de disque dur, 2 ports USB 3, 5 ports USB 2, un port SATA, une sortie HDMI, une sortie VGA, un port DVI, une sortie optique SPDIF et même le Wi-Fi N. Et donc il y a un système d'exploitation, hein, qui est basé sur Linux qui s'appelle Commodore OS, c'est pour ça qu'on en parle.
et qui est basé sur Linux Mint. Alors voilà. Ça a fait dire d'ailleurs à un blogueur, hein, Frédéric Béziès, hein, je crois que c'est ça.
Ça
lui a fait dire que il profite un peu du succès qu'a en ce moment Linux Mint auprès du grand public. Enfin, toujours est-il qu'il est vendu 1 500 $ tout de même. Hein,
oui.
Selon gizmodo.fr, hein, la nostalgie n'a pas de prix, n'est-ce pas? donc, si c'est commandé avant le 25 novembre, la société Commodore USA s'engage à le livrer avant le 15 décembre. Avis aux amateurs de Commodore OS, enfin de Commodore tout court, finalement. Enfin, bref, c'est assez.
Alors. Pour la petite correction, ce n'est pas Frédéric Béziès qui dit que c'est Commodore qui s'approprie le succès de Linux Mint, c'est Alexandre Sink, alias Darth Wound, qui travaille sur Crunchbang, notamment.
C'est Arch Linux, hein.
Qui est admin du site Crunchbang.fr.
Ouais. Et c'est un site. Je crois que c'est un live CD pour Arch Linux, hein, de mémoire.
J'aurais dit Ubuntu, je crois.
Ah, c'est possible.
Je sais plus. J'ai pas testé cette distribution.
Ouais, c'est bizarre. J'avais cru que Crunchbang c'était un truc de Arch Linux.
Alors, on va regarder ça.
On a peut-être mal regardé. Donc voilà, vie aux amateurs, un petit Commodore OS. Et il y a même une petite fiche sur DistroWatch, hein, Commodore OS Vision 1.0 Beta, Linux Mint Based Distribution Created for Commodore Enthusiast and Commodore USA Hardware. On vous laisse regarder ça. On mettra le lien sur le site.
Et donc Crunchbang est basé tout simplement sur Debian.
Debian, voilà.
Debian.
Pardon.
On s'est fait corriger.
On n'a pas fini, hein, de se faire corriger par les noms. La news suivante, mon cher Alain.
La news suivante. Donc, c'est LibreOffice qui a ouvert deux sites. Un site de template et un site d'extension pour LibreOffice, donc. Les sites sont relativement récents, donc c'est pas encore ultra complet, bien qu'il y ait déjà quand même pas mal de choses, notamment au niveau des templates. Il y a pas mal de templates pour les courriers, pour faire des courriers, pour faire des enveloppes, pour faire des cartes, plein de choses. Donc on va mettre les liens sur le site et puis vous pourrez comme ça. Allez voir ça, c'est quand même super intéressant, avec des modes de compatibilité, donc pour LibreOffice 3.3 et LibreOffice 3.4.
Pourquoi ils ont changé autant de trucs que ça?
Il doit y avoir des choses qui sont pas compatibles entre les deux au niveau des templates. Donc pour les sites, c'est pas très compliqué, c'est extension.libreoffice.org, et l'autre c'est templates.libreoffice.org.
Surtout que je sais que quand ils avaient fait passer OpenOffice 3.3 en LibreOffice 3.3, il y avait déjà eu du gros nettoyage de code, hein. Il y avait de mémoire 5000 et quelques lignes de code en moins, ce qui n'est pas négligeable sur une suite bureautique comme LibreOffice,
qui est déjà une bonne usine à gaz. Enfin, en tout cas, OpenOffice l'était. LibreOffice m'a l'air un peu plus
usine à gaz que l'autre.
Plus réactif, je trouve.
C'est possible, c'est possible. Hein. De toute manière, ça n'atteindra jamais le niveau de Microsoft Office, qui est de toute manière en dessous de LibreOffice.
C'est juste
une horreur. J'ai jamais pu faire quelque chose avec.
J'utilise quotidiennement au boulot. C'est
Oui, voilà. Tu dois savoir.
Qu'est-ce que ça rame? Ça fait ramer mon PC, c'est galère.
C'est toujours comme ça de toute manière pour ces logiciels-là. La news suivante, Mozilla se met à jour avec l'arrivée de Firefox 8, Thunderbird 8 et Firefox Mobile 8. Donc trois gros logiciels. Alors déjà, Firefox 8, hein, tout le monde le sait depuis la sortie de Firefox 4 il y a maintenant quelques mois, hein, je crois que c'était il y a 6 mois de ça maintenant,
ouais.
Parce qu'il était en version 3.6 depuis quand même, depuis 2008, hein, il parlait d'une version 4 depuis 2008. Donc depuis la version 4, eh bien, on a une accélération de version, c'est-à-dire une version qui sort environ tous les deux mois,
oui,
avec un canal bêta.
Toutes les 6 semaines.
Ouais. Voilà, c'est ça, avec un canal bêta, donc c'est un peu moins de 2 mois, avec un canal bêta qui passe sur la version 9 et un canal dev qui passe, enfin plus Aurora, enfin ça s'appelle Aurora, hein, c'est pas un canal dev, c'est un canal dev mais qui s'appelle Aurora, qui passe en version 10 et des nightly, hein, qui sont faites, nightlies, pardon, qui sont faites donc toutes les nuits, hein, selon le. le concept de Nightly. Donc Firefox 8, hein, bon, il n'y a pas de grosses nouveautés, hein, c'est toujours pareil maintenant avec Firefox, hein, c'est surtout en fait pour rattraper un peu le développement de, par rapport à Google Chrome, hein, qui lui passe en vitesse supérieure chaque fois, donc qui nous fait des versions, ils sont déjà à la version 17 ou 18 de mémoire. Donc eux n'arrêtent pas et Firefox a pris un peu le même mouvement puisqu'on sait que 80 et quelques pourcents de l'argent de la fondation Mozilla est assuré par Google.
Tout à fait, ouais.
Et donc d'ailleurs, que par ailleurs, il y a un partenariat qui est fait et qui est renouvelé, je crois, tous les deux ou trois ans. Donc voilà pour Firefox 8. Thunderbird, ben le courriel lui, pareil, se met en version 8 et profite de quelques d'améliorations et de corrections de bugs, comme notamment la gestion d'extensions qui se rapproche de celle de Firefox. Et on a Firefox Mobile 8 pour Android qui lui aussi se met à jour. Donc Firefox 8, enfin en tout cas pour Android, moi je l'utilise personnellement.
Moi, je suis plus sur Opera.
Je l'utilise, c'est assez... ça devient de plus en plus réactif, mais encore du boulot un peu à faire quand même dessus. Hein. Ça reste un peu lourd et lent, parce que ça fait quand même 14 mégas installés, c'est quand même un peu, tout petit peu quand même lourd pour l'instant. Mais ce qui est beaucoup reproché, notamment sur l'Android Market, c'est que Firefox ne supporte pas le Flash. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite sur le Flash. Et que, justement, voilà, on est juste une implémentation de nouvelles technologies comme l'HTML5. Mm-hmm. Et on sait que pour l'instant, l'HTML5 n'est pas bien implanté. Enfin, c'est pas implanté partout pour l'instant. Donc... bon, à attendre, en tout cas de fil en aiguille, ça commence à devenir un très bon logiciel. Donc à tester sur Android et donc voilà. Et Firefox fête ses 7 ans au passage, hein, rappelons.
Exact.
Rappelons que c'était un Netscape à l'origine, hein,
oui.
C'est ce qu'a fait Mozilla au tout départ. Et la fondation Mozilla, on les salue d'ailleurs chez Mozilla, si jamais ils nous écoutent. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon. Pourquoi pas. Alors, maintenant, attention, spéciale technologie propriétaire.
Alors, juste avant ça,
oui,
je voudrais faire un petit encart avant qu'on parle des technos propriétaires et notamment de Flash.
Ah oui, une petite info de LinuxFR, oui.
Tout à fait, je viens de tomber dessus, ça a été publié hier. Barnes & Noble, qui est une société qui commercialise une liseuse sous Android qui s'appelle le Nook. Comme vous le savez, Microsoft fait un petit peu la guerre à tous les fabricants de tablettes Android et de smartphones Android en leur disant donc qu'ils enfreignent leurs brevets et grâce à ça, ils leur prélèvent quelque chose comme en moyenne 5 euros, je crois, pour chaque vente de smartphone. Je ne sais pas combien c'est pour les tablettes, ça doit être plus. En résumé rapide, Microsoft a dit à Barnes & Noble, vous enfreignez nos brevets, mais on peut s'arranger, payez-nous. Barnes & Noble a dit quels sont les brevets, et Microsoft leur a demandé de signer un NDA. Donc le NDA, c'est le Non-Disclosure Agreement, donc un accord de confidentialité. Barnes & Noble leur a dit, bah non, nous on signe pas, dites-nous d'abord quels sont les brevets qu'on enfreint, et du coup, bah, ça s'est plus ou moins arrêté là, et donc Barnes & Noble ne paiera pas de royalties, en tout cas pour l'instant, à Microsoft pour la commercialisation des appareils Android. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait un constructeur comme ça qui résiste à Microsoft, contrairement à HTC par exemple,
ou Samsung hein, ou même
aussi,
Samsung
tout à fait,
de toute façon tous les constructeurs de matériel de smartphone pour qui tournent sur Android doivent il y a un système de reversement qui va directement à Microsoft. Comme on sait, il y a une grosse bataille de brevets avec Apple, Microsoft et tout le bordel, hein. En gros, Apple a presque failli interdire le Galaxy Tab en Europe, hein. Même en Allemagne, je crois qu'en Allemagne, il y avait...
Il y a eu une interdiction.
Voilà, ouais. Il y a eu une interdiction, je crois, qui n'est plus en cours, mais sur l'ensemble de l'Europe, il ne devait plus y avoir de Galaxy. Donc que ça soit le premier du nom, hein, le Galaxy S, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais en tout cas le Galaxy S, le S2, parce qu'il paraîtrait que la forme rectangle ou la forme carrée serait déposée par Apple, mais bien sûr. Donc,
Et la petite ironie, c'est que Microsoft gagne beaucoup plus d'argent en récoltant les sous d'Android qu'en vendant ses Windows Phone.
Oui. Voilà. Enfin, disons-le tout de suite, hein, le Windows Phone, les Windows Phone Series, hein, depuis leur première version sur la version 7, ce ne sont pas des mauvais systèmes, ce sont même des plutôt bons systèmes.
Ouais.
Mais bon, voilà, hein, je ne dirai rien de plus, je pense que tout le monde a compris, ça reste quand même de la technologie propriétaire. Donc, et puis bon, faut pas non plus considérer que Barnes & Noble soit des... soit des gens complètement chevaliers blancs, style Google, hein, ne vous y méprenez pas, mais en tout cas, voilà, on peut dire que c'est une nouvelle affaire dans les batailles de brevets aux États-Unis.
Tout à fait, celle-ci est plutôt réjouissante pour une fois.
Oui, pour une fois, mais ça commence à devenir un peu saoulant à la longue d'avoir ce genre de d'affaires. Quoi.
C'est Dallas, hein, à
oui,
force.
Oui, parce qu'on ne sait plus vraiment quel matériel choisir, hein. On a l'impression de financer le camp d'en face ou le camp d'à côté, qui n'est pas forcément chevalier blanc pour le coup. Donc c'est vrai que voilà, c'est Microsoft. Bon.
Tout à fait. Allez, on enchaîne le proprio.
Oui, le proprio, attention, grosse page propriétaire. Flash, Silverlight, Skype et le F. Alors, Silverlight, Microsoft dit que Silverlight ne devrait pas être abandonné. Enfin, il n'y a pas eu de communiqué pour ou contre. Apparemment, d'après ce qu'on a pu lire ça et là, Silverlight 5, la nouvelle version donc de Silverlight, ne fonctionnerait que sur Windows et qu'avec Internet Explorer, donc plus de compatibilité avec Firefox ou Chrome ou ce genre de navigateur. Silverlight, voilà, tout simplement, c'est une technologie comme Flash, propriété de Microsoft, hein, développée par Microsoft il y a quelques années de ça. Et qui propose du contenu riche et dynamique pour les sites internet. Le seul souci, c'est que, par exemple, sous un Linux, quand vous lisez un site en Silverlight, en gros, ça ne marche pas.
Oui,
ou alors,
c'est galère.
Il faut une implémentation d'un plugin qui s'appelle Moonlight, qui est développé par Red Hat, hein, de mémoire. Mm-hmm. Et ça aussi, ça a toujours fait un peu débat ça a toujours fait débat de toute manière. Par exemple, le site de France Télé.
Oui, justement, j'allais mentionner ça.
Le replay de France Télé, on doit passer par des scripts pour pouvoir récupérer les vidéos parce que sous Linux, ça ne marche pas. Je le dis honnêtement, j'ai pas peur de le dire, ça fait mal au cul en sachant que c'est quand même un site public.
Oui, exactement, c'est tout à fait
public,
ça. Ouais.
Franchement, de voir que encore la rigueur Flash, on peut comprendre.
À la limite, ouais.
À la limite,
oui,
on peut comprendre ouais. Mais de se dire que notre propre argent à nous, aux contribuables, on passe par un plugin comme Silverlight et qui en plus complètement fermé et qui va encore plus devenir fermé, donc vraiment faire partie de l'écosystème Windows et Internet Explorer, c'est vrai que là ça fait encore plus mal entre guillemets au cul. Donc voilà. Je lis ouais, effectivement que ça a été développé en 2007. Donc voilà, et apparemment Silverlight 6, aucune idée. Il l'abandonnerait pas. En tout cas, ça n'a pas été mis dans les roadmaps de Microsoft sur les prochaines années, hein, parce que j'ai vu encore cette semaine passer devant moi des roadmaps sur les futurs Windows 8 et Windows 9, hein, qui sont déjà prévus en 2013.
Oui.
Notamment tout un écosystème entre la Xbox, Windows 9, les tablettes et les smartphones sous Windows Phone avec des cœurs de Windows 9. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs pour eux. Mais voilà, en tout cas Silverlight serait en passe d'être abandonné, mais ça c'est encore à mettre au conditionnel. Deuxième info majeure propriétaire, des failles majeures pour Skype et le petit F, hein, bon allez, je vais le dire Facebook.
Mais ça me fait soyons clairs.
Ça fait un peu mal au cul quand même. Un spécialiste dans la pénétration de systèmes de sécurité aurait découvert une brèche dans Facebook et également une faille de sécurité dans Skype. Pareil, alors pour Facebook, il s'agirait par exemple d'une pièce joint exécutable via l'onglet message qui ne serait seraient pas autorisés. Donc il y aurait une erreur de téléchargement. Il y aurait un fichier qui serait envoyé au serveur de Facebook pour scanner le fichier et l'autoriser. Alors ça, c'est très très grave. C'est-à-dire que si ça ne plaît pas au Facebook... il peut bloop, voilà. Donc voilà. Le problème, c'est que c'est un danger pour les pirates. Pour Facebook. Enfin, c'est un danger puisqu'un pirate peut utiliser pour usurper une identité ou pirater un compte ou amadouer une personne et lui faire distribuer une pièce jointe. Donc voilà, ça c'est très 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 grave. Et Skype également. Donc le fameux logiciel de téléphonie IP qui a été développé, enfin qui a été racheté par Microsoft. Encore une fois, décidément, oui. Microsoft. On est en train de les payer là.
Pour 8,5 milliards.
Oui, 8,5 milliards, oui, exactement. Pareil, il y aurait une faille donc pour localiser géographiquement les utilisateurs de Skype grâce à leur adresse IP ainsi qu'accéder aux fichiers qu'ils auraient téléchargés via des logiciels d'échange peer-to-peer. C'est encore plus grave.
Oui, c'est pas mal.
Pour la neutralité du net, ça passe très 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 mal, franchement. Et d'après ce laboratoire donc qui a découvert ça, l'INRIA, en collaboration avec l'Institut Polytechnique de New York. Un appel refusé permet d'accéder à l'IP, à l'adresse IP du client et à ses activités sur le réseau Internet. Les paramètres de sécurité de Skype ne sont pas capables de bloquer ces connexions dont les utilisateurs ne soupçonnent souvent pas l'existence.
C'est rassurant.
Bon, pour se rassurer, pour ceux qui utilisent Skype, le labo de recherche indique travailler avec Microsoft pour l'élaboration d'un correctif, on espère.
Très bien.
Enfin, troisième information, la fin du Flash. Alors ouais, on l'a...
Alors c'est pas la fin.
C'est pas la fin, parce que là aussi c'est un sujet à troll assez immense. Il y aurait pu en fait de nouvelles versions de Flash pour Android déjà. Premièrement.
Voilà. Donc, en tout cas, Flash abandonne, Adobe abandonne, Flash sur mobile.
Voilà, ouais.
Ils admettent leur défaite face à HTML5 pour les mobiles. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein.
C'est une bonne nouvelle, ouais. C'est une bonne nouvelle. Et même si les Flash, ça marche, voilà, ça reste, on reste quand même sur des smartphones. Mais il n'y aurait pas que les smartphones, également sur PC, on serait vers une convergence vers Adobe Air. Adobe Air qui est un logiciel, enfin une technologie propriétaire donc, de Adobe qui permettrait de faire fonctionner des applications riches. Mm-hmm. J'avais entendu il y a quelques années de ça que c'était la grosse technologie de ouf. Donc apparemment, voilà, il y aurait un pas de plus vers l'abondant de Flash, et en tout cas vers les sites riches et dynamiques sur Internet. Donc on sait que voilà, pour Android, il n'y aurait que des failles de sécurité et des corrections de bugs d'ajouter sur la version, d'accord, mais rien de plus.
Et c'est pareil, donc ils le font pour les smartphones, ils l'abandonnent sur les smartphones et ils l'abandonnent également sur les télévisions.
En plus, voilà. Donc voilà. Vraiment, voilà, Flash, la fin du Flash, il y a encore un gros sujet de troll parce que voilà, on n'en sait pas plus. Également, si ça vous intéresse, on a le communiqué sur le site d'Adobe. Donc voilà, Flash serait vraiment utilisé que pour par exemple des jeux en ligne développés sur cet outil, mais plus pour en faire des applications riches, pas des applications riches, mais en tout cas des sites internet dynamiques et riches. Donc voilà, à prendre au conditionnel, et je pense qu'on aura le temps de vous en reparler d'ici là. La prochaine news et la dernière news avec le siècle. Alors oui, voilà, j'avais un petit mea culpa à faire parce que la semaine dernière, je me suis un peu trompé, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec LibreOffice justement.
Oui.
J'avais dit qu'il sortirait en 2013, mais j'ai confondu en fait les deux outils. Hein, LOL, LibreOffice Online, qui sortirait lui en 2013, et une implantation de LibreOffice sur les tablettes et smartphones iOS, donc le système d'Apple. Et Android, le système de Google.
Voilà.
Donc voilà, ce sont deux choses différentes. L'un est indépendant et l'autre est vraiment développé par la Document Foundation.
Oui.
The Document Foundation, oui. Donc LOL, LibreOffice Online. Donc voilà, petit mea culpa, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Le siècle du logiciel libre, mais qu'est-ce que
oui.
c'est donc?
Qu'est-ce que ça peut bien être?
Eh bien, c'est juste des gens espagnols, des espagnols qui ont décidé qu'en ce 11 novembre, donc c'était vendredi, le vendredi 11 novembre, oui. Allaient lancer le siècle du logiciel libre. puisque le...
À 11h11.
Hein, 11h11, ouais, voilà, parce que le 11-11-11 est un chiffre binaire parfait. Évidemment, ça marche pas avec 12-12-12 parce que...
Et surtout, c'est le dernier avant, dans longtemps.
Oui, avant longtemps, je sais plus c'était quoi le truc, mais de toute manière, voilà, c'est avant longtemps, je pense qu'on va pas on va pas en avoir des comme ça.
2101.
Donc voilà, on n'en aura pas un avant longtemps. Donc ils ont décidé de lancer le siècle du logiciel libre. Hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet dans Flux Libre, j'ai fait une petite actualité dessus, une petite news. Voilà, ces initiatives de libristes hispanophones. Il y a une petite news également sur le Framablog hein, de Framasoft. Voilà, bon, rien de bien gentil à se mettre sous la dent finalement, puisque c'est juste qu'une annonce. Je vais quand même vous lire vite fait un peu le truc. Donc bonjour à toutes et à tous et à la communauté du logiciel libre. Un groupe de personnes et d'organisations de différents pays est en train de se former pour organiser une célébration le vendredi 11 novembre 2011. En effet, la date de ce jour 11-11-11 sera la dernière date binaire qu'il y aura avant longtemps. La prochaine date du même genre sera le 01-01-00 en 2100. Donc en fait, voilà, il y a 2100 aussi.
J'ai raté un an.
Ça sera pas binaire. Ça sera pas un binaire parfait. Pour faire honneur à cette date, clin d'œil du calendrier, hein, c'est plus par rapport au système numérique, nous avons décidé de nous réunir ce jour-là, non pas pour célébrer cette dernière date binaire, mais bien au contraire pour profiter de cette excuse numérique afin de célébrer le début du siècle du logiciel libre. Voilà. Une dernière phrase, hein. Un autre logiciel est possible, il se trouve être libre. Waouh, ça donne envie
joli,
d'être
hein.
cool.
Hein.
Ça donne envie d'être cool. Il y a même une petite actu sur lemonde.fr qui en a fait référence hein, avec donc le début du siècle du logiciel libre. Bon, c'est un peu lancé dans l'espace comme ça sans
ouais,
réelle
c'est
volonté.
Un petit peu folklorique.
C'est un peu folklorique. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de réel. On n'a pas entendu Richard Stallman de toute façon dessus.
Non, en effet.
Pour une fois. Pour une fois. Voilà, c'était les actualités. On a eu un peu de mal hein, pour les actualités parce que c'est un peu arrivé au compte-gouttes les uns après les autres.
Ouais, il n'y a pas eu grand-chose.
Il n'y a pas eu grand-chose hein, quand même. Non. Donc, merci à gizmodo.fr, toolinux.com, linuxfr.org, pcimpact.com, lemondeinformatique.fr et lemonde.fr pour l'ensemble des actus. Retrouvez de toute façon toutes les actus, hein, les liens sur le site internet après émission.
Tout à fait.
Tout à fait.
En flux libre, le focus.
Eh bien, maintenant, nous allons passer au focus, mon cher Alain.
Oui.
Et le focus, au départ, on voulait faire un petit Mozilla, mais bon, bah finalement, on s'est dit qu'on avait déjà parlé de Mozilla dans les news et on a décidé de vous faire découvrir un moteur de recherche, DuckDuckGo.
DuckDuckGo,
oui. mais je sais que je vais me faire reprendre de toute manière par des gens, donc oui, je sais. Excusez-moi, mea culpa d'avance. Alors, DuckDuckGo. Pardon. DuckDuckGo, pardon, excusez-moi. Je sens que je vais me faire reprendre encore dessus, mais voilà. DuckDuckGo. J'ai eu la surprise de découvrir quand j'ai installé Linux Mint 12 RC.
Oui.
Qu'on va parler justement juste après dans les tests. J'ai eu la surprise de voir que dans Firefox il y avait DuckDuckGo de mis à l'origine par rapport à Google qui est toujours mis d'ailleurs dans les barres de recherche. Et donc, je connaissais déjà un peu d'avance, mais voilà, j'ai pu le tester un peu plus. C'est un moteur de recherche, normalement, qui veut respecter la vie privée de ses utilisateurs au grand dam d'autres groupes comme, évidemment, le grand et le géant Google, qui a plutôt tendance à tracer les gens au gré de leur navigation. Mmh. Là, il y a un vrai respect quand même de la vie privée des gens. Voilà. Il y a aussi, il y a plusieurs petites choses en tout cas. C'est une petite start-up hein, et son créateur s'appelle Gabriel Weinberg. J'espère que je le prononce bien. Qui a décidé d'ailleurs d'augmenter le capital de sa start-up.
Oui.
Et pour l'instant, il n'y a pas de pub. Je crois qu'il y a Amazon. Hein. Il y a un peu de pub quand même avec Amazon. Donc peut-être que le modèle économique n'est peut-être pas le bon. Mais toujours est-il que voilà, on ne se fait pas pas suivre, parce que Google, je pense que vous l'avez tous remarqué, a tendance à suivre et à vous donner ensuite les publicités commerciales qui va bien avec votre profil, hein, selon les clics que vous faites. Enfin, moi, ils ont un peu de mal parce que, vu le paquet de sites de logiciels libres, ils ont un peu de mal à me proposer un logiciel libre payant. toujours est-il que si vous voyez des images un peu bizarres sur votre côté, ne vous étonnez pas, c'est que vous êtes allé sur des sites bizarres avant. Donc Duck Go, oh là là, je vais avoir beaucoup de mal. Donc un réel respect de la vie privée. Mm-hmm. Il y a un seul serveur à Singapour. Bientôt pas, il paraîtrait, en Europe aussi.
En Europe, il y en aura.
En Europe un, ouais. Également. Donc même s'il est déjà rapide, il se base en fait sur d'autres systèmes, donc comme Bing de
Alors,
Microsoft.
Ils se basaient, ils mais se maintenant basaient. Ils ont leur propre robot.
D'accord.
Donc,
ouais. Mais il y a toujours aussi, je crois, les résultats hein, des autres.
Je pense, ouais. Des autres. Parce que leur robot n'a pas dû encore pouvoir tout scanner.
Je pense, de toute façon, on n'aura pas peut-être la puissance de Google, la puissance de feu de Google,
oui, voilà,
aussi.
Ouais,
hein.
Ouais.
Parce que bon, bah voilà, Google est quand même quelque chose. On en dit ce qu'on veut, mais Google entre DuckDuckGo et une recherche sur Google, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. En tout cas, voilà, c'est à essayer parce que honnêtement, pour des recherches simples comme Ubuntu-fr ou Linux-fr voilà. ou YouTube ou des trucs comme ça, enfin des sites qu'on peut, enfin des sites grand public, ça marche très très bien. C'est bien référencé quand même, donc c'est plus dans une optique open source que libre d'ailleurs, parce que bon,
oui, c'est pas libre, hein.
Ouais, voilà, c'est pas libre.
DuckDuckGo n'est pas libre,
voilà, ouais, on le signale bien, donc c'est plus dans une optique open source. D'après ce que j'ai quand même pu lire, c'est quand même, il a quand même un vrai respect de la vie privée,
oui,
et,
voilà, ouais.
Et d'ailleurs dans ses précédentes, on peut le voir dans les commentaires de LinuxFR, on peut apprendre que voilà, dans ses précédentes startups, bah voilà, il a jamais essayé de fausser compagnie aux utilisateurs, oui. Donc apparemment voilà, ça serait mm-hmm. Après, est-ce que cette start-up il va aussi la revendre comme il a fait aux autres? Bon, peut-être que voilà, c'est
on verra ça,
mais voilà, c'est plus dans cette
Alors il y a une petite fonctionnalité assez sympa que j'aime bien là dans DuckDuckGo, c'est que quand on lui pose une question, il est capable de répondre directement sans qu'on ait besoin de cliquer sur un des liens de la réponse. Par exemple, si j'écris donc en anglais « Age of Richard Stallman » pour connaître l'âge de Richard Stallman, eh bien, donc j'ai les liens, en effet, mais au-dessus, j'ai un petit encart rouge avec marqué « Réponse 58 ans, 7 mois et 28 jours ». Donc, il nous donne directement la réponse, ce qui est quand même relativement pratique.
Surtout qu'on n'a pas forcément besoin de savoir son âge tous les jours.
Non, mais bon, ça peut être... par exemple, si on tape « The Simpson Characters », eh bien, il nous liste directement tous les personnages de la série
Simpson, ouais.
Les Simpsons,
d'accord.
Plutôt que de nous renvoyer vers un lien. Et c'est... plutôt sympa, c'est bien fait.
Oui, voilà, il y a des fonctions en fait, il y a des fonctions directes qui permettent, par exemple, je crois qu'il y avait une syntaxe,
oui.
Point d'exclamation, WFR, je crois, ça renvoie directement à la recherche de Wikipédia. Il y a pas mal de petits trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est assez sympa de trouver un autre moteur de recherche que le grand Google, que je pense 90% des gens en Europe doivent utiliser, ou en tout cas des gens en France. C'est plutôt sympa, ça va plus dans une optique de changement, même si on va voir comment évolue DuckDuckGo, mais voilà, c'est un peu dans le même esprit d'ailleurs que Six, qui Six S E E KS.
Ah oui,
oui c'est un peu
fait,
dans le
ouais.
même esprit, mais c'est plus un métamoteur.
Métamoteur
qui lui va scanner Bing, Google,
voilà,
Yahoo.
Voilà, c'est ça,
et,
ouais. C'est une sorte de
d'agrégateur finalement.
De proxy en fait.
Ou de proxy.
C'est-à-dire
oui.
qu'il fait les recherches pour nous sur les moteurs de recherche.
Voilà, oui.
Comme ça, les moteurs de recherche comme Bing et Google ne traquent pas nos visites.
Voilà, ouais, tout à fait.
Et je confirme pour les recherches, point d'exclamation WFR. Ça ramène directement
Wikipédia.
Sur le site Wikipédia,
voilà.
Enfin fr.wikipedia.org, ouais. Avec sur la page qu'on recherche.
Voilà, bah voilà. Ça par contre c'est super pratique, hein, surtout quand on est un grand utilisateur de l'encyclopédie libre Wikipédia. D'ailleurs, on va peut-être en faire un focus
oui,
la prochaine
fait,
fois,
ouais.
Hein,
pourquoi pas.
C'est quand même un gros truc. Et malgré ce qu'on a pu en dire, au départ, franchement, je le dis honnêtement pour Wikipédia, et on referme la parenthèse, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu beaucoup de mal sur ce logiciel, mais sur ce site. Mais bon, voilà, comme j'ai su que c'était libre, peut-être que ça méritait qu'on s'y intéresse, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Parenthèse refermée. Voilà pour le focus, donc c'est
duckduckgo.org.com.
duckduckgo.com.
Duck, c'est le duck de canard, hein. Voilà. C'est canard, va
chercher. En fait, c'est Nico, c'est le chien de Nico.
Voilà, c'est ça.
Va chercher. Donc c'est et en plus, il y a même, enfin, en tout cas, on peut y accéder par HTTPS,
oui,
donc par manière sécurisée en certificat SSL. Donc https://duckduckgo.com. Parce que par exemple, le HTTPS de Google n'est qu'en version bêta. Donc, moi je l'ai qu'en version bêta pour l'instant. Quand on fait https://google.fr, on a encore qu'une version bêta du certificat. Donc, c'est pas encore totalement implanté. Que là, sur DuckDuckGo, on l'a en natif. Donc, voilà pour DuckDuckGo à essayer d'urgence.
Les tests dans Flux Libre.
Les tests. Maintenant.
Les tests.
Là, on a un sacré morceau.
On s'est fait plaisir.
On s'est fait plaisir, ouais. Fedora 16 et Linux Mint 12 RC Release Candidate. Donc, deux distributions majeures dans le monde de Linux, hein, qui montent. Enfin, surtout pour Linux Mint, hein, parce que ouais. Fedora est quand même là depuis un certain temps. Donc, Fedora et Mint qui sont arrivés à la version 16 et 12 respectivement, en sachant que Mint est encore en RC. Donc, les deux distributions incluent tous deux l'environnement GNOME en version 3, mais avec deux philosophies différentes. Donc, d'un côté, on a Mint. Donc, on a Mint avec une surcouche très intéressante, le Mint GNOME Shell Extension.
Voilà, MGSE.
Pour les intimes. Donc, GNOME 3 avec une très belle interface.
Oui.
Une barre de tâches en bas, une vraie. Un menu intégré, voilà. Plus besoin d'aller sur le coin, le côté haut gauche pour avoir les fenêtres ouvertes. On a directement la chose dedans. Quoi. Enfin,
on gagne en clic.
On gagne en clic. Personnellement, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que là, on y gagne quand même vraiment au change.
Ouais.
Une belle réactivité du tout. En fait, une belle surcouche, quoi. On a bien travaillé. Hein.
Ouais. Alors, le menu, leur nouveau menu intégré avec MGSE. N'a pas encore toutes les fonctionnalités qu'on avait avec
mais on a les recherches
avec le Mint menu, on a les recherches, oui. Mais par contre on n'a pas par exemple, si avant je voulais installer Sodipodi, si je savais pas s'il était installé ou pas sur mon ordinateur, j'allais dans mon petit menu Mint, je tapais Sodipodi et s'il n'était pas installé, il me proposait directement
évidemment
de l'installer.
Si on activait les dépôts.
Voilà.
Ça dépend si et dans quel dépôt il est.
Et donc là, il y a cette fonctionnalité-là n'est pas encore intégrée dans le nouveau menu, mais il y aura des améliorations à venir en tout cas. Donc tout ça va évoluer. Quoi qu'il en soit, c'est super joli, ça marche très bien pour une version testing qui est arrivée mercredi ou jeudi sur les dépôts.
Je crois que tu m'avais donné le lien, t'as dû marquer
c'était
un truc
jeudi,
sur ton blog.
Ouais, c'était jeudi. J'ai un article sur mon blog là-dessus.
T'avais mis un truc sur ton blog, donc on l'a en test tous les deux et c'est vrai que bon, à part le fait que toujours les pilotes propriétaires ont du mal à passer, notamment pour moi de mon côté, hein, j'ai fait des tests et pour ATI c'est toujours autant la merdouille. Ou alors on peut le télécharger à partir du site internet d'AMD ATI, mais bon, le souci c'est que ça revient à un GNOME classique. Donc c'est pas forcément très très bien, ça perd un peu son intérêt. Donc voilà, à voir la version normale qui va apparaître d'ici quelques semaines maintenant, voire
dans
deux semaines, hein, je pense que la RC vont peut-être attendre de la diffuser un peu.
Hein. Normalement c'était fin novembre.
Oui, fin novembre. Mais bon, ils ont décidé de retarder un peu la sortie. En tout cas, leur objectif, hein, on le voit très bien sur le blog de Linux Mint, hein, Clément Lefebvre, hein, le fondateur et mainteneur de la distribution, l'a clairement dit, il veut battre Ubuntu. Et même, enfin, en tout cas, il y a une réflexion, hein, sur Linux Mint, parce que est-ce qu'il faudrait passer sur Debian ou Ubuntu, toute la question.
Il y a déjà LMDE,
qui n'est pas une mutuelle étudiante, mais bien une, mais bien Linux Mint Debian édition. Donc, est-ce qu'il y aurait
semi release,
parce que le terme est important. C'est pas totalement une rolling release, c'est une semi. Est-ce que c'est basé sur du seed, je crois, Debian seed,
voilà,
Debian seed, pardon.
Exact.
Debian Seed. Donc, bon, voilà. Est-ce que, en tout cas, on vous invite à tester, parce que c'est franchement beau, c'est du Mint, hein, donc ça vaut le coup par rapport à Ubuntu, hein, même si on peut modifier Ubuntu et mettre GNOME 3, même, voilà, c'est très bien. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, j'y ai passé une bonne après-midi à tester un peu tout, ça marche ouais, du tonnerre.
Moi, je suis dessus depuis donc, le 10 novembre, c'était jeudi, je l'utilise depuis jeudi, bah, ça marche.
Du tonnerre
marche,
aussi, ouais.
Ça marche du tonnerre, ouais. Ouais.
D'accord, ouais. Donc voilà.
Et beaucoup plus... C'est assez réactif malgré la surcouche MGSE.
Oui, oui.
Je pensais qu'on perdrait un petit peu en réactivité dans l'ensemble, parce que bon, mon portable c'est quand même un
vieux portable, n'aie pas peur de
truc,
le dire.
Hein. Oui, c'est un vieux truc. Hein.
Moi j'ai une bombe à côté de toi.
Ouais, ouais. Bah, ça marche quand même
plutôt
vachement
bien.
Ouais.
Bien
ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
Bah, t'as peut-être aussi des composants. Des composants classiques finalement.
Oui, oui,
t'as peut-être aussi des composants classiques. Hein. C'est ce qui est bien aussi chez Acer, en tout cas pour les deux ordinateurs qui sont chez Acer, ce sont quand même des composants.
Ouais, tout fonctionne avec des pilotes libres, donc même le Wi-Fi, c'est du Broadcom. Mm. Donc ça marche plutôt bien. Alors sous Linux Mint, j'ai pas de manip à faire. Sous Arch Linux, quand j'installe mon pilote Wi-Fi, faut un petit peu plus batailler quand même. Hein.
Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, bon, ça c'est c'est la spécificité d'Arch Linux.
Voilà.
Moi, de mon côté, bon, voilà, j'ose dire que ça marche très bien, mais il y a quand même toujours le souci que le pilote libre fait fonctionner mon ventilo à fond.
Oui.
Alors si vous auditeurs, vous avez installé Linux Mint et vous avez pu activer les pilotes propriétaires ATI AMD pour justement pouvoir calmer ce ventilo, bah écoutez, appelez-moi, il n'y a pas de souci, ou déposez des commentaires plutôt, c'est m'appeler non, mais déposez des commentaires parce que j'ai toujours pas réussi à l'installer de bonne manière. Donc Mint 12 RC qui est sorti la semaine dernière et Fedora 16 qui est également sorti la semaine dernière, 16e version majeure de la distribution libre développée en partenariat par Red Hat. Donc il y a une version libre en fait de la Red Hat Enterprise, de la distribution Linux Red Hat Enterprise, qui est plus une distribution à vocation entreprise. Pareil, bah Fedora 16 avec GNOME 3, mais là sans surcouche, donc c'est vraiment GNOME 3 dans son plus simple appareil.
Ouais.
Donc pareil, hein, pour activation de pilote propriétaire, c'est la même merdouille que l'autre d'avant. même si effectivement, voilà, toujours distribution à la pointe du logiciel libre, toujours plus agréable à utiliser. Faut toujours mettre un peu, je pense, ses mains dans le cambouis. Hein. Je pense notamment quand il faut rajouter des dépôts pour, par exemple, des logiciels qui ne sont pas forcément libres, comme les GStreamers, les MP3 et ce genre de choses-là, pour installer, par exemple, l'implémentation pour lire le MP3. Donc voilà, c'est toujours très réactif, c'est très beau. Après, voilà, j'ai testé que GDOM, on n'a pas testé autre chose.
Non.
Mais voilà, alors, on pense que ça va bien. Je pense que d'ici deux ou trois versions de GNOME, ça va vraiment finir par être une très très bonne distribution.
Ouais. Alors moi, du coup, quand j'ai installé Fedora 16, ça a été
un bordel,
pour moi l'expérience. Oui, alors j'ai eu quelques petits soucis pour l'installer, mais je pense que j'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Ça doit être de ma faute. Problème d'interface chaise clavier comme d'habitude. Moi, Fedora 16, ça a été pour moi le moyen de découvrir pour la première fois GNOME 3 que je n'avais jamais testé auparavant. Il y a les chats qui se battent derrière et il y en a un qui est accroché au rideau.
vas-y,
alors,
on continue.
Donc oui, pour moi, ça a été le moyen de découvrir GNOME 3. J'ai eu beaucoup de mal. J'aime pas du tout ce système là d'aller chercher dans le coin en haut à gauche pour aller chercher ses applis. Faut lancer sa souris là.
Mais tu sais que dans KDE t'as exactement la même fonction.
Ouais, mais
tu veux la même fonction, mais évidemment, t'as toujours une barre de tâches en bas.
Voilà,
oui, voilà,
t'as toujours la barre de tâches pour sélectionner tes applis, tandis que là, faut quand même
tu
aller.
Tu lances ta souris.
Tu
la lances sur ton copain si tu veux, mais voilà. En tout cas, tu peux la lancer. Effectivement, là, tu as l'apparition des toutes mes fenêtres.
Alors, super, c'est beau, machin.
Oui, c'est très
mais
beau.
C'est super, ultra, méga, pas pratique. Ensuite, quand on va dans les applications, on se retrouve De prime abord, bon, évidemment, il y a les catégories sur le côté, mais on se retrouve devant un gros paquet.
Et encore, t'as pas connu.
Attends, le nom des applis n'apparaissent pas en entier. On a oui, combien de caractères? Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 8. On a 8 caractères de l'application qui s'affiche. Alors, du coup, vous avez intérêt de bien connaître vos icônes. Parce que pour LibreOffice, il y a écrit LibreOffice, 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 LibreOffice.
On les reconnaît quand même, les LibreOffice.
Heureusement, on reconnaît les icônes, mais.
Non mais
voilà, il y a des soucis. Non, il y a des soucis. C'est pas optimisé du tout.
Mais t'as pas connu quand même. T'as pas connu le GNOME 3.0, le tout premier.
Ah non, j'ai pas essayé.
Tu l'as pas essayé. C'était les icônes aussi grosses que sur les smartphones.
Ah.
C'est-à-dire que là, t'avais même pas 8 caractères. Tu devais avoir 4 au mini, au maximum. Tu devais en avoir 4. Hein. 4. Ta barre de tâche, elle faisait la moitié de l'écran. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord quand je vais dire ça. C'était vraiment. Voilà, moi, quand j'ai testé sur Arch Linux, quand je suis revenu sur KDE, j'étais quand même bien content. Ça manquait un peu de tact, ou ça manquait encore de. C'est surtout, en fait, le fait. On peut pas modifier, à part si il y a eu un logiciel qui a été développé par quelqu'un d'indépendant qui s'appelle GNOME Twix ou une connerie comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc rien à voir avec le gâteau, mais Twix, TWEAKS, qui permet de modifier la police, ou par exemple, vous savez, les trois petits pointeurs, les trois petits boutons, donc fermer, agrandir ou réduire et réduire dans la barre de tâches. Par exemple, dans les versions de GNOME, les chats veulent participer à l'émission, dans les versions de GNOME. Il n'y avait pas ça, tout simplement. Il y avait juste, il fallait cliquer sur. Enfin, bref, c'était un peu le gros bordel. Là, je trouve que voilà, avec Linux Mint, justement, ça c'est juste. Et leur implantation donc de MGSE, ça s'est quand même bien amélioré.
Ouais, ils font du super bon boulot chez Mint.
Oui, voilà. Ils font quand même du bon boulot. On va pas jeter la pierre à Fedora 16.
Non.
Parce que c'est très utilisable au quotidien.
Ça marche très bien.
Faut juste s'habituer.
Hein. C'est super fluide,
oui, voilà.
Même sur mon vieux PC, je le répète. Fedora, c'est super fluide, ça marche très très bien. J'ai eu très peu de bugs, à part sur la version testing où j'avais pas mal de petits soucis.
Oui, moi aussi pareil.
Par contre, sur la version stable, ça marche très bien.
Oui,
il
n'y
a rien à dire.
Ouais. Donc voilà, en tout cas, on vous invite à tester ces deux distributions qu'on a eu le plaisir à tester. C'est vrai que je l'ai dit.
Pardon, excuse-moi, je te coupe.
Oui.
Quand on a testé, Gislain et moi, Linux Mint 12 testing, donc on s'est baladé un petit peu sur le canal IRC de Linux Mint.
Voilà, ouais.
Communauté très sympathique.
Ouais, très.
Hyper disponible. Non, très bien, rien à dire
dessus.
Et
d'ailleurs, si jamais quelqu'un ou un développeur un peu plus important de Linux Mint nous écoute, on voudrait bien solliciter une petite interview. On demande un peu des interviews partout, mais on n'a pas beaucoup de réponses. Donc si jamais ça vous tente, une petite interview, ça serait avec plaisir.
Clem me semble quelqu'un de très 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 occupé. Donc ça va pas être simple.
Oui, c'est clair,
pense.
Ça va pas être simple. Je signale simplement que dans deux semaines, on testera OpenSUSE 12.1 qui va sortir mercredi, mais ça, on va en parler dans le point DistroWatch, qui va sortir mercredi qui vient. Donc,
mercredi qui vient.
Oui, c'est bien ça, mercredi qui vient. Mm-hmm. Donc, moi, je viens de tester ce matin, là, en me réveillant, je me suis dit, ah tiens, petit test de distribution.
Pourquoi
Scientific Linux, qui en fait un Red Hat, hein, c'est la même famille que Fedora. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, GNOME 2.32.
C'est
pas de logiciel.
C'est une distrib pour les scientifiques,
oui,
donc c'est sûr que
boulot.
on va pas aller dans les dernières versions de GNOME ou quoi que ce soit. Bon, par contre, c'est vrai que comme tu disais, enfin moi en tout cas, comme toi, je m'attendais à ce que
il y ait plein d'a soit blindé quoi d'applications,
voilà.
Mais je pense que c'est plus
plein
à rajouter.
Scientifiques,
ouais, c'est plus
et
à rajouter.
En fait, il y a rien du tout.
Non, il y a rien du tout.
Voilà.
Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'hier soir, j'ai fait une petite clé USB. Ça m'a mis kernel panique avec mes touches d'ordinateur qui faisaient clavier, qui faisaient guirlande de Noël. Donc, Noël, c'est pas maintenant. Donc, c'était assez sympa. C'était assez sympa à voir. Donc, voilà pour le test. Donc, dans deux semaines, hein, OpenSUSE 12.1. Mais ne vous inquiétez pas, la Degeek reviendra un de ces quatre. Hein, on l'a pas
tout
oublié celui-là.
Ça dépendra des actualités, des distributions.
Voilà. Oui,
s'il y a des distributions majeures qui sortent,
C'est vrai que là, sur deux mois, là, depuis qu'on a commencé l'émission, on a eu la chance quand même d'arriver sur Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Linux Mint. Donc on a pas mal de chance quand même de pouvoir tester pour vous ces distributions.
Ouais.
site du jour, la sélection en flux libre.
Le site du jour, Alain ?
Le site du jour, qu'est-ce que c'est le site du jour ?
Framasoft.
C'est Framasoft.
Et donc, tu m'as pris ton conducteur, toi, ça fait peur. T'as pris le conducteur, toi. Toi, t'as bossé avant de venir. Hein.
Non, mais je savais, c'était une question
rhétorique.
Ah,
une question, oui, de rhétorique, oui, d'accord. Non, mais bon, bien. À faire trop d'interactivité, ils vont croire à force qu'on n'a pas préparé du tout l'émission. Le site du jour, Framasoft.
Framasoft, donc ce gros site,
devenu quand même un gros site maintenant.
Ouais, donc moi je l'ai connu dans un premier temps quand j'étais toujours sous Windows.
Tu as été sous Windows un jour ?
Il y a eu une époque, oui monsieur.
J'y suis toujours. D'ailleurs, à tous ceux qui utilisent Steam, petite information, toujours information propriétaire, donc parenthèse, hein. Je mets bien mes mains entre parenthèses. À tous ceux qui ont Steam chez eux, faites gaffe, changez vos mots de passe. Steam a été piraté.
Oui,
exact. On ferme la
exact.
Parenthèse. Non, c'est vrai que ça a été piraté. Donc, à tous ceux qui utilisent Steam, et puis je sais que tout le monde qui écoute l'émission n'utilise pas forcément Linux. Hein, on le voit très bien de toute manière dans les flux. Ouais, non, mais on peut rien nous cacher dans les flux d'ici. tous ceux qui utilisent Windows et Steam, voilà, changez vos mots de passe et surtout effacez toutes vos informations de compte bancaire. Un pirate a eu accès à toute la base de données. Donc voilà.
Aïe, aïe, aïe.
Je préfère que ça passe par notre canal que un développeur de chez Steam qui le dise. Parenthèse refermée. Framasoft.
Voilà, donc
Framasoft.
Framasoft. Donc un gros site, comme on disait, qui contient une base de plein de logiciels libres pour Windows notamment. Donc c'est assez pratique pour par exemple tout simplement pour découvrir les logiciels libres sans forcément s'installer un Linux, hein. Donc les chats viennent de passer par la fenêtre. À l'heure actuelle, Framasoft a une base de 1574 logiciels libres à installer sous Windows,
oui.
Répartis dans différentes catégories.
Sous Linux aussi. Hein,
sous Linux aussi, ouais. Mais il y a des applis qui ne fonctionnent que sous Windows.
Que sous Windows.
Ouais. Donc c'est surtout pour les gens qui veulent découvrir le logiciel libre. Sans forcément s'installer un Linux,
oui,
et
voilà.
Pouvoir trouver des alternatives aux logiciels propriétaires et souvent payants assez cher.
Donc, il y a de réelles alternatives.
Ah oui,
parce
j'utilise,
par exemple, bon, voilà, je ne le cache pas, j'utilise un Windows, mais au maximum quand même, j'utilise des logiciels libres tant que je peux trouver. Mais par exemple, pour un lecteur audio.
Oui.
Clémentine, ça marche très bien. Pour un éditeur Audacity, pour graver des images CD, si jamais je veux installer un Linux chez quelqu'un et que je n'ai que Windows disponible, on a Lili USB Creator,
oui.
On a par exemple, donc pour ça c'est pour une clé USB, mais pour un CD on a de mémoire c'est InfraRecord, voilà, InfraRecorder qui est un très très bon logiciel de gravure. Pour les torrents c'est pareil, il y a plus que des logiciels pour satisfaire la demande. Donc vraiment il y a vraiment ce qu'il faut, quoi.
Ouais,
dans
tous
ces domaines.
C'est
hein.
Super bien rangé par catégorie par sous-catégorie derrière.
Oui, voilà.
Donc à ce niveau-là, on peut pas trop se perdre si on cherche quelque chose.
Et c'est une association à l'origine, c'est une association qui origine mettait des logiciels ou ce genre de choses-là.
C'était basé sur pour l'éducation.
Ouais,
Oui,
c'est ça vient.
Et
c'est
les mathématiques notamment.
Voilà, ça veut dire tout simplement français et mathématiques en intranet, donc Framasoft.
Ah.
Donc net ne veut rien dire, mais Framasoft. C'est une association. Donc voilà, c'est par le monde éducatif qui sont arrivés sur la grande scène du libre et maintenant ils sont à peu près partout dans tout ce qui est grands événements, par exemple dans les RMLL, les rencontres mondiales du logiciel libre. C'est un site en réseau, c'est-à-dire voilà, il y a Framasoft, le site qui permet donc de télécharger des logiciels libres, Framablog qui est un blog qui est associé, Framabook. Alors Framabook, une grande histoire de Framabook avec Richard Stallman par exemple, parce que c'est eux qui ont ressorti de la poussière le livre de Richard Stallman.
Tout à fait, ouais.
Sur le traduit, livre, ouais. Voilà, qui a été retraduit et qui a été remis au goût du jour. Et Richard Stallman l'a même signifié dans l'interface, dans la préface de son livre. Donc, on va dire que il y a. Alors, je sais plus c'est quoi le titre exact du. Voilà, c'est Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Donc voilà, traduit en français et le livre est sous les éditions Eyroll, je sais pas si ça se dit comme ça.
Eyroll.
Et vous pouvez également le lire en PDF. Alors, je crois qu'ils sont tous lisibles en PDF. Hein, donc il y a moyen de choper des très très bons livres en général.
Mm-hmm. Là, le dernier,
par exemple, Produire du logiciel libre, un nouveau livre. Donc voilà, c'est qui est la traduction française de Producing Open Source Software, How to Run a Successful Free Software Project. Oh putain.
Magnifique accent.
Magnifique
beau,
accent, surtout à 10h à 11h. Et demi du matin. Donc voilà, c'est voilà, il y a vraiment.
On a Framatube également qui compile une centaine de vidéos autour des logiciels libres.
Ouais.
Soit ces vidéos-là sont en français ou alors elles sont sous-titrées par Framalang, donc le groupe qui fait les traductions.
Il y a donc Framaki qui est une clé avec plein de logiciels libres à l'intérieur, une version DVD que vous pouvez mettre sur les clés USB. Il y a même une Ubuntu Remix fait par Framasoft. Et puis nous par exemple on utilise le Framapad.
C'est super pratique.
C'est un Google document à la sauce libre finalement.
Voilà, c'est ça, ouais.
Mais voilà, on le répétera jamais assez. Cette association, en tout cas, le site internet a besoin de dons, puisque beaucoup de monde utilise ces logiciels, surtout Framapad, et malheureusement.
Framapad, ça fait un carton.
Fait un carton, et malheureusement, les serveurs ne suivent plus.
Voilà, ils ont été obligés de supprimer des fonctionnalités d'ailleurs, notamment l'export en PDF des documents, puisqu'ils n'ont pas la puissance nécessaire derrière.
Voilà, si vous voulez les aider, n'hésitez pas. Ce sont, je pense, des gens super sympas. En tout cas, ils nous ont rajouté tout de suite sur le Frama Podcast.
Le Frama Podcast, d'ailleurs.
Donc,
on les salue.
Si la personne qui nous a rajouté nous écoute, et bien écoute, on vous salue monsieur, et on voudrait bien d'ailleurs une interview un jour de vous, encore une fois une interview, putain on va faire que ça, des mises à interview, on veut une interview de vous s'il vous plaît. Donc voilà, on voudrait une interview de vous parce qu'on trouve votre travail juste énorme. Donc voilà, allez faire un tour, c'est blindé le logiciel libre, c'est sympathique comme tout, il y a plein d'actualités à lire, bref ça occupe un bon moment quand on est dessus, et on espère un jour les rencontrer. D'ailleurs à ce propos, si un jour on pourrait être nous-mêmes au rencontre mondiale du logiciel libre, ça serait pas mal. Je pense que de toute manière, on vous annoncera au fur et à mesure, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour l'instant, nous ne fonctionnons qu'en podcast, mais un site internet, je le dis déjà, est d'ores et déjà en préparation. Également, plein de petites choses, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de rencontrer tous les gens sur lesquels on parle, c'est-à-dire LinuxFR, Framasoft. Plein de trucs comme ça.
T'as pas pu t'empêcher de l'annoncer.
J'ai pas pu m'en empêcher. Non, mais tu sais bien, de toute façon, t'auras bien beau me dire tu n'annonces pas. Si, je vais quand même l'annoncer. Voilà pour le site du jour.
Le point DistroWatch.
Le point DistroWatch, Alain.
Le point DistroWatch est parti.
Ah là là, attention, DistroWatch, notre grande histoire d'amour, notre site à nous. DistroWatch.com, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh bien, on a pas mal de petites choses, on a pas mal de petites distributions de derrière les fagots. Donc, pour résumer, nous avons Linux Mint 12RC, ça on l'a déjà dit.
Voilà, donc on l'a testé, on vous en a parlé.
Release Candidate. Je l'ai dit tout à l'heure, OpenSUSE 12.1 sort le mercredi 16 novembre en version donc 12.1. Mm-hmm. Donc le test sera à venir dans la prochaine émission. Vous avez un petit lien sur le site internet de l'association française d'OpenSUSE. Hein. Vous avez un petit lien vers le site anglais qui annonce évidemment cette nouvelle release avec de Gnome Shell également 3.2. Hein. De toute façon, maintenant, c'est un peu le truc de base.
Ouais.
KDE 4.7 et d'autres bureaux comme XFCE ou LXDE. Et pareil, hein, toujours des implémentations de nouveaux logiciels. Mais ça, on aura le temps de vous en reparler, notamment de Yast, qui, je l'espère, aura évolué. Commodore OS Beta, ça on vous en a parlé tout à l'heure également.
Oui, et juste je voudrais mentionner aussi la sortie d'une version de développement de Astaro. Alors Astaro, c'est une distribution spéciale
sécurité,
entre guillemets, sécurité informatique. Ouais, donc en fait, c'est ça fait pare-feu, ça fait routeur, mm-hmm. Ça fait plein de choses. Mm-hmm. Donc c'est pas évident à prendre en main. Mmh. Mais c'est super complet. Moi, je l'avais testé déjà auparavant en créant en machine virtuelle. J'avais créé, je crois, quelque chose comme une douzaine de machines virtuelles avec deux ou trois sous-réseaux et puis Astaro au milieu qui filtrait tout. Ça marche du tonnerre. D'accord. Ça marche super bien.
Peut-être à essayer une prochaine fois. Je sais pas. Moi, je connais pas trop ce genre de distribution, donc pourquoi pas essayer.
Ouais. Pour ça, faut vraiment mettre un protocole de test en marche, puisqu'il il faut plusieurs sous-réseaux.
Ouais, d'accord. Donc quelque chose quand même d'assez compliqué finalement.
Ouais.
D'accord. Mais on aura peut-être, on fera peut-être une petite page distribution Linux sécurité, parce que c'est vrai qu'il y en a
pourquoi
pas mal
ouais.
quand même.
Il y en a des biens.
Il y en a des biens. Donc.
Il y en a des biens.
Il y en a des biens. Ouh là là. Sabayon Linux 7, LXDE et E17 Desktop également en version bêta, il me semble, de mémoire. Expérimental, ouais, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc une Gentoo, on l'avait déjà dit, pré-compilé. Fedora 16 qui est sorti également. OpenBSD 5.0, dis donc,
oui.
ils sortent de leur caverne.
t'es méchant.
Oui, je suis méchant, ouais. Non, BSD, on vous en reparlera parce que ça, c'est encore une autre branche de l'Unix. Hein. C'est pas du tout du Linux. Et dans le genre plus compliqué, tu trouves pas. Ouais, c'est quand même assez compliqué. Hein. J'ai tenté de l'installer. J'en suis toujours au manuel. AV Linux 5.0.2, ça c'est pour la MAO, les gens qui sont spécialisés dans la MAO, la vidéo comme moi par exemple, mais qui n'existe qu'en 32 bits et qui est une distribution basée sur du Debian. Ça marche aussi très bien, c'est en LXDE, moi j'ai pas accroché du tout, moi je préfère des distributions comme Tango Studio par exemple, j'en avais parlé dès la première émission,
ouais.
Donc voilà. Donc c'est pas, voilà, on va dire que c'est pour les gens par exemple qui ne seraient pas très puissants au niveau de leur PC, qui voudraient quand même toucher un peu à la MAO, musique assistée par ordinateur. Le classement DistroWatch, qu'est-ce qu'on a cette semaine dans les 15 premières places?
C'est pas très compliqué. Linux Mint a sorti sa version RC.
Et là,
donc Linux Mint
squatte la première place.
Squatte la première
voilà,
place.
Voilà, tout à fait.
Et a, par rapport en tout cas il y a deux semaines, a bien distancé
Ubuntu. Ouais. On va recommencer peut-être de la place 15. Scientific Linux, 15e.
Oui, bah du coup, oui.
Sabayon, 14. Chakra, 13. Toujours en progression. L'Ubuntu qui aussi est un bon outsider, 12e. Mageia et Mandriva se collent les uns aux autres.
Ouais.
Donc Mageia va pas tarder peut-être à dépasser Mandriva dans les quelques semaines qui vont venir.
Ça descend
à vitesse vertigineuse. Puppy en 9e position. CentOS, Red Hat aussi en 8e position. PC Linux OS en 7e. Arch Linux en 6e. Debian en 5. Évidemment, le top 4, toujours le même, OpenSUSE, Fedora, Ubuntu, qui a cédé sa place de number one avec Linux Mint.
C'était déjà le cas il y a deux semaines,
Oui, c'est régulièrement le cas, et parfois Ubuntu repasse, mais bon, je pense et je les sens très bien pour squatter durablement la première place.
Alors, ce qui est un petit peu ironique, c'est que Mint est basé sur Ubuntu.
Voilà.
Donc Ubuntu et Canonical font une grosse partie du boulot.
Voilà, tout à fait.
Et puis derrière, Mint, bon, je vais pas dire qu'il pique le boulot d'Ubuntu parce que
non.
Ils font quand même un sacré travail au niveau de l'intégration.
Voilà, oui.
C'est vraiment des grosses améliorations sur Ubuntu.
Oui.
Moi, pour ma part, depuis que je connais Ubuntu, je n'ai jamais aimé cette distribution.
Quoi ? Tu n'as jamais aimé Ubuntu ?
Ah non, j'ai jamais réussi à accrocher à Ubuntu. J'ai toujours trouvé ça moche.
Je trouvais ça beau, moi. Je trouvais ça super beau. Oui. Mais tu rigoles, mais bon, pour moi, par exemple, qui a découvert ça avec un Mandrake, je trouvais ça affreusement moche.
C'était
d'ailleurs le PC qui m'a servi est derrière toi, Alain, tout simplement.
Ah le
PC qui est. Oui, le truc là. Non,
le
mais
truc, ouais.
Oh, c'est bon. C'était mon PC avant et le PC.
Respectes mon vieil ordinateur.
Oui, tu respectes mon vieil ordinosaure. Et donc, justement, c'était une Mandrake. Et quand j'ai essayé après, c'était, je me rappelle très bien, c'était une LTS, c'était Ubuntu 8.04. Bah écoute. j'étais sur le cul quand même. Donc c'est pour ça que je suis.
Je trouve Ubuntu vraiment ça
de base, je suis Ubuntu, je le dis honnêtement. Bon, même si maintenant j'ai quand même découvert autre chose de mieux qu'Ubuntu et j'ai plus tendance à trop l'installer à part quand il y a des nouvelles versions. Mm-hmm. Et bon, ça m'intéresse plus après. Mais bon, voilà, on va dire que c'est plutôt. C'est au choix de chacun, je pense. C'est au choix
ah
de
oui,
chacun.
Oui, bien sûr.
Je pense que
ah
voilà,
oui,
c'est
oui,
pour
oui.
ça. Toi, t'as peut-être découvert avec Gentoo, toi aussi.
Ouais, j'ai commencé par Gentoo et ensuite Arch Linux.
T'as pas découvert avec la meilleure, je pense. Parce que niveau développement durable,
c'est sûr.
C'est pas trop ça.
Mais à l'époque, on n'en parlait pas encore.
Non,
de développement
durable. C'est sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Distrowatch.com pour voir toutes les distributions. Allez voir, allez mater tout ça. Et puis, allez mater. J'ai l'impression d'être diffou là. Alors, sur Skyrock, bienvenue sur Skyrock, vous allez pouvoir mater tout ça. Non, non. Distrowatch.com pour aller télécharger toutes ces distributions. C'est libre et c'est gratuit, même si l'un et l'autre ne sont pas liés, je le reprécise encore une fois.
Rendez-vous du libre.
Et on termine cette émission avec les rendez-vous du libre. Alain, voilà. J'espère qu'on va pas trop vite pour vous. C'est vrai qu'on pédale un peu.
Ça dépote, ça dépote,
ça dépote. Ça dépote, ouais. Les rendez-vous du libre.
Rendez-vous
Alain.
Du libre, bah écoute, pas grand-chose. Même rien du tout.
De toute manière, les rendez-vous du libre, on n'en fera plus. De toute manière, puisque on n'a pas forcément de retour derrière, donc on les annoncera peut-être de manière succincte quand il y aura un gros événement de toute manière, mais je pense qu'on fera plus soit des comptes rendus ou le rendez-vous du libre sera supprimé et on mettra quelque chose d'autre à la place. Mm-hmm. Donc voilà, c'est interchangeable. Hein. Vous avez bien compris que l'émission était interchangeable à volonté. Vous savez, comme les coques Nokia. Bref, la cantine numérique.
Donc, pas de rendez-vous. Par contre, la cantine numérique de Rennes a mis en ligne les vidéos d'un colloque sur l'open data qui a eu lieu le 7 novembre dernier. Ouais. Donc, il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles. Tout le programme, en fait, toutes les interventions du colloque sur l'open data sont disponibles. Je les ai pas encore regardées puisque ça a été mis en ligne récemment et j'ai pas trop eu le temps de faire ça. Par contre, je vais me plonger dedans et je pense qu'on vous fera bientôt
un petit topo.
Ouais, un focus sur l'open data et ouais. sur... pourquoi l'open data c'est important et voilà. Et puis où on en est en France notamment.
Voilà, tout à fait. Donc je pense que voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Je signale qu'effectivement vous avez pu vous apercevoir depuis 3 émissions, on se cherche un peu, il y a des petits changements de temps en temps. Donc je l'annonce d'ores et déjà que sur le 4e épisode dans 2 semaines normalement si tout va bien, on commencera à mettre de la musique parce que je sais que c'est une petite demande quand même.
De Thomas notamment.
Thomas de Stinux, ce qui nous a, voilà, bon, ça manque un peu de musique, donc on essaiera de se faire une petite sélection de musique libre.
Tout à fait.
Ou en tout cas, enfin, libre, là aussi c'est un peu sujet à controverse, en tout cas, parce que j'ai vu un débat sur LinuxFR qui disait, avec un nouveau jeu là, qui s'appelle Mars Shooter, que j'aurai l'occasion de vous en parler dans les prochaines semaines, et justement il disait, voilà, comme ça, que c'était une licence créative Commons by... et c'était pas une by SA, je crois que c'était une by ND ou une connerie comme ça. C'était,
by NC ou by ND,
je sais plus. Et donc, c'est tout un débat, mais voilà, une sélection de musique libre à connotation électronique notamment, puisque c'est un peu ça qui nous intéresse. Peut-être que je vous passerai un de mes morceaux finalement. J'ai envie de vous passer.
Eh bien, pourquoi pas ?
Oui,
Est-ce que c'est libre ?
Oui, c'est libre. Oui. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Moi, je m'en fous complètement de l'utilisation que vous en ferez. À partir du moment où vous me dites que vous l'utilisez pour quelque chose, pour une illustration sonore, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, je signale que si vous voulez des illustrations sonores pour une émission ou d'autres, mais écoutez, ça sera avec plaisir que je vous la réaliserai. J'ai assez de matériel chez moi. Donc voilà. Et donc, ouais, une petite. Je pense que je vous passerai une petite musique ou deux, histoire d'aérer un peu l'émission, parce que je pense qu'une heure, c'est un peu gros.
De speech non-stop.
De speech non-stop. Surtout nous, qui ne sommes pas forcément habitués. Là, c'est vrai que ça fait déjà plus d'une heure et on a hâte d'aller fumer. Et Alain, qui est en train de nous. Hein, en train de me dire, non, on est à 1:07, ne t'inquiète pas. 1:07. Okay. Et puis en plus, il y a certains trucs qui vont être coupés au montage.
Donc, on est plutôt pas mal,
on reste pas mal, même si on a galopé et qu'il n'y a pas de retour parce que Alain vient de m'arracher encore le fil. Ah, c'est pas vrai ça.
Je suis désolé.
Là
c'est... Ouais, c'est bon, ouais, j'ai du retour. Ouais.
C'est bon, j'ai du retour aussi. Donc voilà, Alain vient d'arracher le fil du retour. C'est génial. Donc voilà, donc des petits changements à venir hein, un peu partout, mais ça, vous les découvrirez au fur et à mesure du temps qui passera. En tout cas, on est super heureux et super content que des gens nous suivent. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'intérêt autour de cette émission et on vous en remerciera jamais assez. Eh bien, écoute, Alain, je pense que c'est la fin.
C'est la fin de l'émission.
Voilà, on a fait notre
déjà.
Déjà.
Qu'est-ce que ça passe vite.
Oui, ça passe vite. Hein. Une heure, on pourrait en faire deux heures. Enfin, faut pas exagérer non plus.
Voilà, on pourrait.
C'est vrai qu'on pourrait, oui. On pourrait, mais bon, comme on vous l'a déjà dit, on fera des petites émissions spéciales, ne vous inquiétez pas. Donc notamment une émission sur Noël dont on est déjà en train de travailler dessus. On essaiera de vous faire des petits trucs de Noël.
Wouh.
Wouh. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez bien profité du nouveau son HD Live Digital Audio avec deux micros de chaque côté. Commentaires sur enfli.tuxfamily.org, je suis complètement HS moi, .tuxfamily.org, identi.ca/enflux libre, ce sont les sites habituels. Et vous pouvez retrouver également, nouveauté de la semaine dernière, la page Google Plus d'Enflux Libre.
Tout à fait.
Vous pouvez vous inscrire. Hein. Pour l'instant, on reste au Google Plus tant que c'est pas trop, tant que ça n'a pas trop la connotation de Facebook. On y reste. Mais bon, le jour où on verra que ça merdouille un peu, on n'hésitera pas non plus à les quitter. Donc voilà, c'est la fin de cette émission.
Merci Ghislain.
Merci Alain, à toi d'être toujours là à mes côtés pour animer cette émission. Et on vous donne rendez-vous normalement dans deux semaines,
tout
si tout
fait.
Va bien. Je pense que c'est tout.
Oui, c'est tout.
Normalement, il y a un générique qui passe là autour.
D'ici là, il y aura le site aura été un petit peu retravaillé.
Oui, on va retravailler le thème. Aussi un peu ça quand même, histoire de rendre ça un peu plus convivial.
On va faire ça la semaine prochaine.
Voilà, on fait ça la semaine prochaine, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, on essaiera de publier des éditoriaux assez régulièrement également. Donc voilà, plein de bonnes petites choses pour Enflux Libre. Merci beaucoup à tous.
Merci à tous.
Merci Alain et on se dit dans deux semaines. Ciao, bye bye.
Salut.
Là, t'as un retour ?
Non, là j'ai pas de retour.
Vas-y.
Ouais.
C'est bon ?
Ouais,
c'est bon là ?
Ouais.
Ouais.
Non, attends. J'ai eu pendant. Ça y est, là j'ai un retour.
C'est bon là ? Ouais, c'est la prise. C'est la prise qui déconne.